Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Jocelyne Moussopondi à la présentation.
Condamnation de Roger Lumbala en France, à Mambasa, en Ituri. Les habitants réagissent à ce verdict pour crime contre l'humanité. Vous les entendrez dans ce journal. Reprise des cours hier mardi dans la zone éducationnelle Kassai 2 après un mois de grève des enseignants. C'est à la suite du paiement de 3 mois d'arriérés. Mine de lithium de Manono. Lewis Yola, assistant technique au programme anticorruption de l'ONG Ressources Matters, alerte sur des zones d'ombre liées à la gouvernance et à la transparence. Il est l'invité de ce journal. Bonjour à tous. 48 heures après la condamnation en France de l'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d'appel d'assises de Paris pour complicité de crimes contre l'humanité commis en Ituri, les habitants de Mambasa réagissent à leur tour. Entre 2002 et 2003, ce territoire de l'Ituri avait été le théâtre de graves atrocités perpétrées par le RCD national, mouvement dirigé par Roger Lumbala. Comment ce verdict a-t-il été accueilli par la population de Mambasa? Découvrez ses réactions dans ce reportage de Martial Kizabiamungu.
La condamnation de M. Roger Lumbala n'est pas quelque chose qui peut nous étonner. Parce que quand vous participez à un crime, et par vos actes ou par vos propos ou bien par votre commandement, il y a eu beaucoup de morts. Ceux qui sont morts atrocement, ça fait très mal. Donc c'est comme une population qui reste avec beaucoup de blessures.
Nous plaidons vraiment qu'il y ait une réparation intégrale de tout ce que nous victimes qui sommes ici sur place. Et que nous soyons indemnisés, ça serait une bonne chose.
La justice élève une nation. C'est une satisfaction totale pour nous qui sommes épris de la justice parce que au vu de tout ce qui a été posé, des violations des droits de l'homme et des actes infractionnels, nous pensons que tous les criminels assimilés de cette façon et qui se trouveraient non seulement à RDC d'une manière générale, mais surtout à Ituri, subissent les mêmes sorts.
Le collectif des avocats de Roger Lumbala va interjeter appel ce mercredi après la condamnation de leur client par la Cour d'assises de Paris. Ce maître Chibangu Kalala, qui l'a dit hier mardi à Radio Kapi, il explique que la défense de Roger Lumbala n'est pas étonnée par ce verdict, d'autant plus que leur client avait refusé d'assister aux audiences et de se défendre. On écoute maître Chibangu Kalala au micro d'Alain Irung.
Nous avons tous suivi le verdict rendu par la Cour d'assises de Paris, condamnant Roger Lumbala à 30 ans de prison ferme. En tant qu'avocat, nous nous attendions à cette décision de condamnation. Il faut savoir que Lumbala ne s'était pas défendu devant la Cour d'assises au premier degré. Et la Cour n'a entendu qu'un seul son des cloches et c'est évident qu'elle devait aboutir à la condamnation de M. Lumbala. Nous nous sommes concertés avec M. Lumbala, qui est en prison. Nous avons pris la décision d'interjeter appel dès mercredi. Et la Cour d'appel verra, suivant son calendrier, son agenda, pour fixer la procédure d'appel. On espère que cette fixation pourrait intervenir l'année prochaine, vers la fin de l'année prochaine ou au début de l'année 2027. Mais ça, nous attendons justement que la Cour d'assises nous fixe la date de démarrage du procès en appel.
Dans un tout autre registre, le transport terrestre entre Uvira et Bukavu a repris après l'occupation de la ville d'Uvira et des principales agglomérations de la plaine de la Ruzizi, notamment Luvungi, Katogota, Bouguera et Sangé par l'AFC 123. Le prix du transport par passager varie entre 2500 et 3000 francs congolais selon l'itinéraire choisi vers le Rwanda ou en direction des escarpements de Ngomou. Reportage.
Il est 14h à Bukavu, lorsqu'un bus de l'agence de transport en commun El Shaddai arrive au parking du quartier Essence dans la commune d'Ibanda. La plupart des voyageurs sont curieux de revoir la ville de Bukavu qu'ils ont quittée depuis le mois de février pour les uns suite à la guerre.
Vraiment, le voyage s'était bien passé. Du village jusqu'à Bukavu, on n'a pas eu de problème en cours de route. C'était bien passé, vraiment. Seulement, il y a quelques endroits où on demande des cartes d'électeur. On était obligé de les présenter, mais il n'y a pas vraiment de tracassement. C'est 30 000 francs par tête, en passant par Ngoma.
Le voyage depuis Uvira jusqu'à Bukavu n'est plus un parcours de combattants.
On est parti à l'agence, on a rencontré des bus là-bas. On est monté, on nous a demandé seulement de payer 30 000 francs. Nous sommes arrivés aussi à Bukavu.
Fini le long parcours qui consistait à passer par le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda avant d'atteindre Bukavu en provenance d'Uvira. Désormais, 4 heures de voyage sur la route nationale numéro 5 suffisent amplement.
Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les cours ont repris hier mardi dans la province éducationnelle Kasaï 2 après un mois de grève des enseignants. Ces derniers réclamaient le paiement de leur salaire des mois de septembre, octobre et novembre. La reprise intervient après le versement de ces arriérés. Des détails avec André Katende Ngalamouloumé.
C'est depuis le 19 novembre dernier que les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2, dans les territoires de Mouika, Ilebo et Dekessé, avaient suspendu les cours pour protester contre le non-paiement de leur salaire. Après un mois d'arrêt, ils ont finalement repris le chemin de l'école suite au paiement des 3 mois d'arriéré, notamment septembre, octobre et novembre. Cette information est confirmée par Félicien Lobomamba, président de la Fédération nationale des enseignants du Congo, FENECO, section Kasaï.
La reprise des cours prévue pour mardi 16 décembre 2025 est déjà effective. C'est suite à la réception de leur enveloppe salariale de 3 mois que des enseignants du Kasaï D se sont vus soulagés pour reprendre leur souffle.
Félicien Lobomamba invite les autorités congolaises à assurer le paiement régulier des salaires des enseignants afin d'éviter de nouvelles perturbations du calendrier scolaire. Toutefois, il rassure que les enseignants pourront récupérer le jour des cours perdus pendant les vacances de Noël et de Pâques pour respecter les calendriers scolaires. Kananga, André Katinde Ngalamouloumé, Radio Okapi.
Direction Kindu au Maniema, où la campagne de réparation gratuite de fente labiopalatine, communément appelée bec de lièvre, a débuté hier mardi. Plus de 100 patients sont attendus pour cette opération. L'activité est organisée par l'hôpital provincial en partenariat avec le centre médico-chirurgical Kitumaini. Déjà une 20aine d'enfants présentant cette malformation ont été enregistrés à l'hôpital provincial pour bénéficier de cette prise en charge. Un appel pressant est lancé à tous les parents dont les enfants sont concernés afin de se rendre à l'hôpital général de Kindu pour profiter de ces soins gratuits. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Accompagnés de leurs parents et certains membres des familles, ces enfants porteurs de cette malformation sont pris en charge gratuitement. Rachel Amadi, l'un des parents dont l'enfant a été opéré, exprime sa reconnaissance.
Depuis que mon enfant était né, j'étais vraiment mal à l'aise. Mais aujourd'hui, je vois mon enfant bien réparé. Je n'ai rien vraiment payé, rien, même pas un 50 fois, je n'ai rien payé. J'ai dit vraiment grand merci, que Dieu vous bénisse, docteur Florent.
Tandis que Onyombe et son mangwa, Michel, dont l'enfant est en file d'attente, manque de mots pour exprimer sa joie.
Je suis dans la joie puisqu'on va opérer mon enfant aujourd'hui gratuitement. Il a déjà fait 3 ans avec cette malformation.
Le chirurgien Dr Abel Ichoma Florent réitère son appel à toute la communauté.
Pour cette campagne, nous voulons avoir au moins 100 malades, mais nous sommes là pour soigner tous les enfants qui ont des malformations au niveau des lèvres, donc les fentes labiopalatines. Et cela grâce à notre partenaire Smile Train.
Selon les organisateurs, ces interventions qui se déroulent au bloc opératoire moderne de Kindu vont durer une semaine. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, la tuberculose aurait fait surface à la prison centrale de Mbujimayi malgré le dépistage organisé au mois de mai dernier. Le ministre provincial de la Santé estime que les statistiques ne sont pas alarmantes, bien que certains cas restent à recenser. Daniel Kazadi Chilumbai précise toutefois que des dispositions pour isoler les détenus malades sont en cours d'analyse. Le ministre provincial de la Santé s'exprime au micro d'Esterne Dalafina.
Je confirme que nous avons des cas de tuberculose dans cette prison. Vous le savez que depuis le mois de mai, il y a eu un grand dépistage qui a été fait là-bas. Et un dépistage qui s'est fait de façon semestrielle, qui avait relevé jusqu'à 8% des cas de personnes atteintes de la tuberculose. La grande difficulté que nous avons dans cette prison, c'est que la prise en charge ne se fait pas correctement. Parce que, en dehors du fait de donner les médicaments, nous devions effectivement arriver à casser la chaîne de transmission dans cette prison. Mais dès lors que les cas dépistés tuberculeux sont toujours gardés dans les mêmes cellules que les personnes non affectées, non atteintes de la tuberculose, c'est que nous sommes en train de faire un cercle vicieux. Nous sommes en train de nous rechercher pour qu'on voie où est-ce que nous pouvons, avec sécurité, mettre ces personnes prisonnières qui sont touchées par la tuberculose dans un endroit où ils se sentiront aussi à l'aise et on peut les soigner correctement sans pour autant contaminer les autres prisonniers. Nous espérons que dans un temps aussi proche que nous aurons à trouver une solution à cette question-là. Mais c'est une question vraiment qui nous tient à cœur.
Préparatifs des fêtes de fin d'année. L'inspecteur général de la police enjoint à tous les policiers de carrière et personnel administratif civil de sa structure de demeurer vigilants pour que les droits des personnes soient respectés sans faille. C'était au cours d'une causerie morale tenue hier mardi dans la commune de la Gombe. Au cours de cette parade, l'inspecteur général Patience Mouchid a aussi dressé un bilan positif des actions menées par son institution depuis ses 2 ans et 5 mois, particulièrement dans l'acquisition de la logistique de travail. L'essentiel de cette causerie morale dont se condensait d'Alain Rung.
À partir de ce 22 décembre, le nombre d'inspecteurs de l'Inspection générale de la police nationale congolaise sur la ville de Kinshasa sera très remarquable. Général Patience Mouchediaf donne les principales consignes en attirant l'attention sur les mauvais agissements de la police de circulation routière.
Pendant ce déploiement, vous veillerez à ce que les droits humains et libertés fondamentales soient respectés par les policiers. Les personnes arrêtées pour les infractions des droits communs méritent le respect de leurs droits d'être assistés par leurs avocats ou membres de leur famille. Combattre la tracasserie qui se fait avec des bus tabassés.
Pour mieux accomplir leur mission de terrain, les antennes de l'Inspection générale de la police nationale congolaise de Kinshasa, Congo central et Kasaï oriental sont dotées chacune d'une Jeep, outre 4 autres qui reviennent à l'administration centrale.
À notre arrivée, cette unité n'avait pas de charroi automobile. Avec les moyens que le gouvernement a mis à notre disposition, nous avons acheté 8 Land Cruiser pimpants neufs.
Mis à part la dotation d'une dizaine de jeeps au total, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Patience Mouchediaf, relève par ailleurs en guise de bilan l'amélioration des conditions de travail du personnel qu'il instruit d'être davantage efficace pour le rayonnement de cet instrument de contrôle des actions de la police nationale congolaise.
Parlons encore des festivités de fin d'année qui approchent à grands pas. Si l'ambiance générale reste encore discrète, certains signes commencent néanmoins à se manifester, notamment dans les supermarchés et quelques maisons commerciales. Des sapins et des objets de décoration multicolores sont installés de manière à être visibles dès l'entrée. Par ailleurs, plusieurs articles sont proposés à des prix promotionnels. Suivez ce constat signé Naomi Moutoké et Rachel Kalumbé.
Des sapins de Noël et des objets décoratifs multicolores sont visibles devant et dès l'entrée des supermarchés. C'est notamment des guirlandes, des boules décoratives, des étoiles lumineuses, des vêtements de Noël. Ils sont disposés de façon à ce qu'aucun visiteur ne les rate. Il y en a pour tous les prix et toutes les tailles. Les rayons de boissons et de jouets sont aussi très fournis. Des paniers cadeaux rassemblant différents articles comme du vin, du chocolat sont aussi proposés. Les prix de plusieurs biens sont au rouge. revit, 1 kg de pommes, par exemple, passe de 9500 à 7500 sur certains sites. Un carton de jus de fruits purs passe de 11 500 à 10 000 francs. Un para sur place exprime sa satisfaction par rapport à cette réduction qui lui permet de faire des économies.
Pour nous, les paras, certaines boissons ont également été réduites à la baisse. C'est vraiment quelque chose de louable. Et maintenant, là, ce ne sont peut-être pas des grandes réductions, mais dans le contexte actuel, chaque geste compte.
Notez aussi que sur certaines grandes artères, quelques vendeurs se sont convertis, dont la vente des bonnets, guirlandes, sapins et autres objets décoratifs pour ces fêtes.
Actualité internationale. Une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, ont été écrouées hier mardi après avoir été arrêtées en lien avec la tentative du coup d'État déjouée au Bénin le 7 décembre. Elles ont été présentées au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou lundi, puis ont été placées sous mandat de dépôt hier mardi à l'issue de leur audition. Plusieurs mutins sont toujours en fuite, dont leur leader présumé, mais le lieutenant-colonel Pascal Tigri.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'assistant technique dans le programme de lutte contre la corruption au sein de l'ONG Resources Matters. Lewis Yola alerte sur des zones d'ombre liées à la gouvernance, la transparence et des soupçons de corruption dans le projet d'exploitation de la mine de lithium de Manono dans la province du Tanganyika. En effet, dans cette localité se trouve l'un des plus grands gisements de lithium inexploité au monde, un minerai clé pour la transition énergétique utilisé notamment dans la fabrication des batteries électriques. Lewis Yola s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Monsieur Lewis Yola, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Votre organisation Resources Matters lance une alerte au sujet de l'exploitation du lithium à Manono dans la province du Tanganyika. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots pourquoi le gisement de lithium de Manono est si stratégique pour la RDC et pour le monde?
Une fois l'exploitation commerciale du lithium dans le gisement de Manono commence, cela pourrait placer la République démocratique du Congo parmi les plus grands pays producteurs du lithium dans le monde. Mais aussi, cela pourra faire de la République démocratique du Congo le plus grand pays producteur de lithium en Roche-Dire. La production de lithium de Manono servira au monde entier à faire face aux défis de la transition énergétique, notamment dans la production de batteries. Si vous consultez certaines études autour de la demande sur les énergies renouvelables, vous verrez que non, la demande de lithium pourra tripler d'ici 2030 et la production au niveau de Manono pourra bien aider à compenser cette demande.
Selon le rapport de Resources Matters, ce gisement de lithium est une opportunité historique pour la RDC. Mais concrètement, quels bénéfices cette exploitation pourrait apporter au pays si elle était bien gérée?
Cela va permettre à la République démocratique du Congo de rehausser son budget national parce que les bénéfices seront énormes et la production sera vraiment très bénéfique aussi pour les communautés. Ça va stimuler le développement des communautés locales parce que j'étais personnellement à Manono. J'ai vu que le niveau de développement est très bas et avec cette exploitation, ça pourrait avoir des effets directs et indirects sur le social des communautés. Ça va aussi stimuler la création des emplois, ça va réduire le chômage. Ça a beaucoup d'opportunités que cela va créer.
Votre rapport met en lumière des zones d'ombre et des sérieuses inquiétudes dans les processus d'attribution des permis d'exploration et d'exploitation de ces gisements. À quoi faites-vous allusion exactement?
Dans ce rapport, nous avons soulevé 9 signaux d'alerte. Ce sont des indices, des signaux qui soulèvent de sérieux soupçons de corruption tout au long du processus d'attribution de permis de recherche et d'exploitation dans le projet minier de lithium au niveau de Manono. Nous avons travaillé sur 3 projets phares de lithium au niveau de Manono, mais vous allez voir dans la plupart de projets de lithium à Manono, vous verrez que durant le processus d'attribution de permis, il y a une irrégularité dans le respect de certaines lois. Le cas de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation par Manono Lithium qui est contrôlé par un groupe chinois. À part ça, vous allez constater qu'il y a aussi l'opacité générale dans le secteur de lithium. La troisième des choses, c'est qu'il y a eu de versements des sommes importantes à une ONG qui appartient à des personnes politiquement connectées. Il y a eu un versement de 70 millions, équivaut au double de l'argent qui a été versé par Zijin à la Cominière pour acheter 15% de parts. Ça crée des soupçons sérieux de corruption.
Sur quels éléments tangibles vous vous basez pour révéler ces soupçons d'opacité et de corruption que vous dénoncez par ailleurs?
D'abord, ce sont les différents documents que nous avons consulté. On a eu aussi des entretiens avec des entreprises concernées. On a aussi eu des entretiens avec certains cadres des services techniques affiliés à la gestion du secteur minier en République démocratique du Congo. Et nous avons eu aussi accès à certains documents. Ça nous a poussé à produire ces documents, qui est un instrument de plaidoyer plus tard.
Est-ce que vous comptez vous arrêter à dénoncer? Quelle est la prochaine étape? Les poursuites judiciaires, par exemple, sont-elles envisagées?
Dans notre manière de faire les choses, on a toujours voulu que tous les acteurs de la corruption soient tenus responsables de leurs actes. D'une part, nous allons mobiliser les communautés, sensibiliser les communautés qui comprennent d'abord ce qui se passe dans leur espace. Deuxièmement, nous allons faire un plaidoyer au niveau national et international pour que les acteurs supposés de corruption soient tenus responsables. Et ça, c'est un travail qui est en train d'être fait. Je crois bien, au moment important, nous pourrons vous dévoiler les différentes actions qui seront menées.
Alors, un message fort à l'intention des autorités, mais aussi des communautés vivant autour de cette mine.
À nos autorités d'abord, ce que qui puisse rassurer que l'exploitation des lithium respecte la loi, surtout sur ces aspects de la transparence, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pour les communautés, qu'ils puissent rester sensibles et exigeants envers les autorités de notre pays pour qu'ils s'assurent que l'exploitation se passe selon les normes.
Lewis Yola, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de ce journal, coordonné par Alain Irung et mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.